I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher host.
Bonjour Guillaume, enchanté.
Alors, enchanté ouais. Pareillement. On s'intéresse à Conor McGregor. Conor McGregor, où c'est vrai qu'on a reçu plusieurs messages, plusieurs réactions. Vous êtes en mode Guillaume, Rusty B, Paulie Domzer, vous enterrez un petit peu trop vite Conor McGregor. Mais on l'a dit dans plusieurs podcasts, il a toutes les armes possibles, Conor, pour justement s'imposer face à Dustin Poirier. Jusque-là, on est dans cette situation où on se dit, on n'a pas l'impression qu'il ait cette possibilité d'inverser la tendance. Comme, toute proportion gardée, vous avez aujourd'hui un Fedor Emelianenko qui va affronter d'autres adversaires, par exemple, quand il était contre Fabio Maldonado, ou bien évidemment sur le papier, Fedor est mille fois supérieur à Fabio Maldonado, mais aujourd'hui, il ne peut plus revenir à ce Fedor-là. Et aujourd'hui, on est dans cette situation avec Rusty, avec Paulie Domzer, on se dit, c'est très compliqué d'y revenir, et on va vous expliquer pourquoi, mais on va aussi, bien évidemment, vous donner les motifs d'espoir où oui, Conor peut peut-être le faire, même si nous, on ne le pense pas. Mon cher Rusty, est-ce qu'on va lancer le générique?
Je pense qu'on peut le lancer, et comme ça.
Swear. Alors, mon cher Rust, on va d'abord commencer par quelque chose, parce que Rust, journaliste, enquêteur pour la Sueur, bien évidemment, est tombé sur des
Batman
propos...
du monde du MMA.
Exactement.
Est tombé parce que sur Batman des... est enquêteur à la base, faut le savoir.
Exactement.
Enfin, détective. Pardon, excuse-moi,
je rate. Et pas de souci. D'ailleurs, on verra un Batman bien plus détective dans la version qui arrive prochainement.
De Matt Reeves, absolument.
Exactement. Revenons à nos moutons, revenons à Conor McGregor. Donc, Conor McGregor et Rust qui a mené l'enquête avec des propos d'Artem Lobov qui font écho un peu à tout ce qu'on dit depuis l'annonce de cette trilogie.
Bah oui, parce qu'en fait, Artem Lobov, qui est donc un des meilleurs amis de Conor McGregor et de très longue date, mais aussi et surtout un de ses sparring partners principaux et depuis des années aussi, alors même si maintenant apparemment ils se sont un petit peu distanciés, mais il n'en reste pas moins quelqu'un de très proche du camp SBG en Irlande et de Conor McGregor. Et en fait, Conor McGregor, il a eu une sortie il y a quelques jours qu'il a voulu, je pense, Artem Lobov, pour défendre un petit peu Conor et le camp de Conor, etc. Mais en fait, la manière dont il a essayé de défendre Conor et le camp d'entraînement, ben, à mon sens, et je crois que c'était le cas pour toi aussi, nous, on en sort un peu plus, encore un peu plus, on a encore un petit peu plus peur qu'on ne l'avait avant en entendant les propos d'Artem Lobov. Et en fait, c'était en substance Artem qui disait, mais tous les gens qui disent il est loyal à John Kavanagh, Conor McGregor, alors que John Kavanagh n'a rien prouvé, ou enfin en substance, c'est pas les mots exacts, mais alors que John Kavanagh, ça fait des années qu'il n'a plus rien prouvé, que machin, ça fait 5 ans que Conor McGregor n'a pas retrouvé son niveau, etc. Pourquoi est-ce qu'il ne change pas de camp d'entraînement et tout ça? Et Artem Lobov disait, à ces critiques-là, je réponds, mais vous êtes tout le temps en train de dire qu'il faut de la loyauté, qu'il faut machin. Là, vous avez un gars qui est extrêmement loyal en la personne de Conor McGregor, qui est resté avec le coach, qui l'a fait monter au plus haut niveau, qui l'a fait gagner des titres, etc. Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Et je comprends le point de vue de Artem Lobov, je comprends d'où il vient pour dire ça, mais à mon sens, pour moi, c'est un peu inquiétant. Parce que tu vas me dire ce que tu en penses, mais pour moi, c'est... La loyauté, c'est la base et c'est ce qu'il y a de plus important dans ce foutu monde, tu vois. Mais avoir de la loyauté n'empêche pas de se développer, et pour accéder à de nouveaux moyens de développement, ça peut aussi passer par, en conjonction avec ton entraîneur, en conjonction et en accord avec tes proches, d'aller autre part et d'essayer autre chose. Typiquement, d'accord, il est cher à mon cœur, mais c'est un bon exemple, Darren Till. ce qui a fait son succès, c'est aussi, au-delà de tout ce qui était sphère personnelle qui a fait qu'il est parti d'Angleterre, c'est que c'est son coach, Colin Herron, qui a dit à Darren Till, « Darren, là, pour ta vie personnelle, mais aussi pour tes skills, je pense qu'il faut que tu ailles au Brésil et il faut que tu y restes un petit bout de temps, etc. » Et il a fini par y rester 4 ans, Darren Till, et Colin Herron était parfaitement OK avec ça parce qu'il savait et il voyait bien que, parce qu'il correspondait, que Darren Till continuait de progresser au Brésil, qu'il continuait d'apprendre de nouvelles choses avec de nouveaux points de vue. Et il n'y avait aucun problème avec ça. Et je ne sais pas si ce serait le cas de John Kavanagh. John Kavanagh ne me comment dire, ça n'a pas l'air d'être le type, tu sais, jaloux, qui veut absolument garder son fighter, etc. Mais, et je finirai là-dessus, pour moi, le fait est que Connor reste avec les gens avec lesquels il est depuis le début, mais ce qui, quand tu n'as pas gagné depuis genre 4 piges, à l'exception de Cowboy Cerrone, ben, pour moi, c'est un peu plus alarmant qu'autre chose, en fait. Donc, je ne sais pas ce que tu penses de ça, mais pour moi, c'est une sortie qu'il a voulu défensive, mais qui m'inquiète plus qu'autre chose, en fait.
Complètement. Et justement, oui, Conor McGregor, pour ajouter un petit peu de poids à ce que vient de dire Rust, donc, Conor McGregor, sur les dernières années, donc c'est 3-3 justement en carrière, 3-4 si on prend en compte le combat face à Floyd Mayweather, bien évidemment ce bilan de 1-2 en carrière en lightweight à l'UFC. Et j'ajouterais aussi, c'est vrai, et c'est ça, c'est quelque chose auquel on n'avait pas, je pense qu'on n'a pas vraiment suffisamment insisté là-dessus, mais c'est Fernand qu'on a parlé dans King Energy, et vraiment, tu vois, ça aussi, ça m'a éclairé, c'est dans le sens où moi je suis convaincu, comme lorsque Conor McGregor l'a fait contre Nate Diaz, qu'il fera les ajustements, et on va en parler bien évidemment, c'est jusqu'à quel point peut-il faire des ajustements, mais il fera des ajustements contre Nate Diaz, dans le sens où on voit un Conor McGregor qui est intelligent. Mais c'est vrai que Fernand avait à 1000 points là-dessus, que ce soit contre Khabib Nurmagomedov, où justement Fernand était plus, plutôt que de défendre le takedown, il aurait dû plus se baser sur l'ancien Conor, qui était bien plus dans les mouvements, ouais. Donc ça t'évite de lutter. Et Fernand a dit également contre Dustin Poirier, il y a eu aussi là une erreur dans le game plan, dans le sens où c'est vrai qu'il a abandonné à nouveau ce qui faisait son succès pour se concentrer sur la boxe. Et Fernand a dit ça à chaque fois, et c'était sur deux combats, ce n'était pas des revanches, sur ces deux combats-là, il y a eu des grosses erreurs en termes de game plan, en termes d'approche de Conor McGregor. Et moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'à chaque fois, comme tu l'as dit, c'était son même camp d'entraînement. Et certes, là, contre Dustin, ils pourront faire les ajustements, mais c'est quand même inquiétant quand on a quelqu'un qui, à chaque fois, a sur le papier les armes, et on va en parler dans la dernière partie du podcast, où vous allez voir, on n'enterre pas du tout Conor McGregor, c'est juste qu'on se dit, là, c'est vraiment très, très chaud pour lui, c'est de se dire que la personne a les armes, elle a toutes les qualités pour, mais elle les abandonne au profit de stratégies qui sont... Si elles sont gagnantes, bah bien évidemment, on aurait des avis complètement différents, mais ça fait quand même deux fois, lors de combats où il y a de gros enjeux, j'exclus complètement le combat contre Mayweather, parce que sur le papier, il ne devait pas se retrouver là, complètement, mais deux fois, contre Khabib, plus gros combat de tous les temps, contre Dustin Poirier, le gagnant, si McGregor s'imposait, ensuite il avait le title shot, deux fois où il perd, parce qu'il y a de très très grosses erreurs tactiques, en fait. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui... On peut avoir toutes les capacités du monde. Par exemple, Francis contre Stipe Miocic, le premier combat. Francis a toutes les armes pour battre Stipe Miocic, mais il décide d'y aller full blast. Et résultat, après le premier round, il n'a plus de jus. Donc, si vous partez avec une approche comme ça, qui vient soit de Conor, soit de son camp d'entraînement, c'est très compliqué pour la suite.
Absolument. Et en fait, le truc, c'est que ça peut être lié à plusieurs trucs, parce que tu vois... Allons dans toutes les théories possibles, ça peut aussi être lié, imaginons, tu vois, au fait que John Kavanagh ait amené le game plan à Conor McGregor, par exemple pour Khabib, de bah, « tu sais, en vrai, là, Conor, je pense que ce qui pourrait être le mieux, ce serait peut-être plutôt de favoriser les déplacements énormément, d'être très léger sur ses appuis pour piquer et faire ce que tu fais de mieux ». Et c'est peut-être le cas de Conor qui dit « Non, ça, de toute façon, je sais le faire. Travaillons plutôt le sol parce que j'ai envie de m'améliorer là-dessus en sachant que debout, j'aurai aucun problème. » Et c'est peut-être ça. Parce que ce qui est sûr, c'est que John Kavanagh lui-même l'a dit. Conor, au bout d'un moment, en fait, faisait lui-même ses propres camps d'entraînement, en particulier après le combat contre José Aldo. Donc, ce sont les mots exacts de John Kavanagh. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui met des légendes KO en 13 secondes ? Et donc, du propre aveu de John Kavanagh, il s'était séparé à ce moment-là, il se voyait quasiment plus, il s'entraînait à des horaires différentes, etc. Mais du coup, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que ben, c'est donc, à la manière un peu d'un Tony Ferguson, c'est donc Conor qui gère complètement, et lui-même, et à 100%, sa vie, son organisation et ses camps d'entraînement, et donc, ben, probablement, ses game plans aussi. Donc oui, ça peut être le cas de Conor qui ne prend pas en compte les bons avis, ou peut-être que c'est une possibilité aussi qu'effectivement il est entouré de personnes qui lui disent plutôt oui, oui, oui tout le temps et sans jamais remettre en question quoi que ce soit. C'est possible aussi, et en particulier, j'imagine, quand tu arrives à ce niveau-là de sécurité financière où tu arroses tout le monde et où tout le monde a envie d'être à côté de toi parce que tu vas être dans l'entourage de la superstar, etc. Mais au bout du bout et à la fin des fins, ben, on en arrive là, en fait. Et quelle que soit la raison pour laquelle ces game plans étaient aussi éloignés de ce qui probablement aurait été optimal pour Conor McGregor pour gagner soit contre Dustin, soit contre Khabib, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça veut donc dire qu'il fallait changer quelque chose, en fait. Et c'est là où, encore une fois, on se réservera pour les motifs d'espoir, mais pour moi, le fait que là, il ait décidé de continuer, et en gros, tu sais, sur la photo qui vient juste de poster, que McGregor, il y a encore la fine équipe, mais comme d'habitude, ben moi, c'est ce qui fait que oui, il y a des motifs d'espoir, mais personnellement, je n'en ai plus.
Après, il peut faire les ajustements. Il peut faire les ajustements.
En fait, il peut, mais qu'est-ce qu'il nous dit? En fait, qu'est-ce qu'il y a de différent maintenant, à part le fait que Conor, si ça se trouve, mais en fait, parce que pour moi, je pense que s'il reste avec ce camp d'entraînement-là, la seule solution pour Conor, c'est que ça vienne de lui-même, en fait. Que lui-même ait une approche différente, que lui-même ait une approche différente, que lui-même se dise, OK, là, j'ai merdé, voilà ce qu'il faut que je fasse. Mais parce que visiblement, ça n'est pas, j'ai l'impression, dans l'entourage, que le déclic va se faire. Donc, si la seule solution peut venir de Conor lui-même, c'est chaud quand même pour un athlète pro qui est censé bénéficier de tout cet entourage, quoi.
Ouais, et donc par rapport à ça, bah, ça va aussi servir de transition parce qu'on va là directement aborder les motifs d'espoir pour Conor. C'est que je pense, tu vois, même si on a fait la preview, on a fait les pronos, je pense que ça va être très compliqué pour Conor. Je pense qu'ils sont dans une situation, et c'est ce que John Kavanagh avait dit, où justement Conor, c'est un peu lui finalement le head coach de son propre camp d'entraînement. Je pense qu'aujourd'hui, il est dans une situation, et c'est pour ça que nous, on a souvent dit qu'il faudrait qu'il soit membre de sa propre équipe avec d'autres experts à la Georges Saint-Pierre ou qu'il aille ailleurs, je pense qu'il est dans une situation que non, aujourd'hui, c'est justement ça. Il fait, lui, ses propres choix. Et ensuite, par le résultat du combat, si c'est une victoire, bah, c'est parti, on avance. Et finalement, tu as eu raison, on poursuit comme ça. Ou alors, il perd. Et là, quand il perd, à mon avis, je pense que c'est John Kavanagh et les autres coachs qui reprennent un petit peu la main dessus. Et là, par rapport au motif d'espoir, je pense notamment au combat Nate Diaz 1 contre Nate Diaz 2.
Absolument,
on a un
absolument.
Conor complètement différent. Là, contre Donald Cerrone, pour le deuxième combat contre Dustin Poirier, tu vois, j'ai les stats là. Sur les frappes mises par Conor, 23 frappes significatives mises à la tête, 4 au corps, 2 aux jambes avec les kicks. Je pense que là, on aura un Conor qui sera beaucoup plus complet parce que là aussi, je pense qu'à mon avis, John Kavanagh veut dire bah, faut que tu reviennes justement au kick qui te permette de cadrer.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et beaucoup plus de variations. Mais je pense qu'à chaque fois, c'est ça. Contre Donald Cerrone, on avait reparlé du combat. Et même dès le début du combat, nous, quand on voit Conor qui y va full blast avec un énorme bras arrière pour commencer, qui aurait pu très, très mal se finir pour lui. Parce que Cerrone partait justement au takedown.
Ouais.
Ensuite, il se retrouve dans une situation de clinch et il met les superbes shoulder strikes. Sauf que le clinch, c'est pas Conor McGregor qui l'instaure. Ça, on se retrouve dans une situation où c'est un fait de combat qui ensuite permet à Conor McGregor de briller. Mais c'est pas lui qui décide d'instaurer le clinch, de faire les frappes au sol et de faire les shoulder strikes.
Bien vu, ça.
Et qui sonne ensuite Donald Cerrone. Et une fois que Donald Cerrone est sonné, là par contre, Conor brille dans le sens où c'est vrai que Donald Cerrone s'attend à ce qu'il lance le bras arrière et puis finalement, bah, c'est justement le head kick qui vient le cueillir. Mais ce que je veux dire, c'est que globalement, John Kavanagh n'en a pas parlé, mais tu vois, dans le déroulé du combat, je pense que si ça s'était mal passé, il y aurait peut-être eu une revanche après, mais tu vois, il y aurait eu un Conor complètement différent. Mais c'est tant que ça marche, je pense qu'à mon avis, aujourd'hui, ils sont dans une situation où c'est très compliqué pour eux de pouvoir dire à Conor, enfin, tu sais, écoute-nous, parce que c'est vrai que tu mets Donald Cerrone KO en 40 secondes, qu'est-ce que tu peux dire au mec? Et sachant qu'on en avait parlé dans la review, c'est 40 secondes, mais où il se passe beaucoup de choses en 40 secondes.
Ouais.
Donc, tu vois, le côté de dire il est beaucoup plus, il a beaucoup plus cette approche boxe, tout ça, bah les gars, ça avait fonctionné.
Ouais, c'est vrai, mais en fait, là, on en est dans le cas où, effectivement, on peut le voir comme ça. Et c'est vrai, tu as bien fait pour la défense de John Cavanaugh, tu as vraiment bien fait de le notifier. C'est que il y a eu l'historique et la chronologie des événements pour les deux combats contre Nate Diaz. Il y a le premier combat contre Nate Diaz, il le perd, Conor McGregor, et il dit « j'ai très mal géré mon énergie », etc. Juste après ce combat, effectivement, il se rabiboche du coup avec John Cavanaugh. Et c'est eux qui le disent, hein. Ce sont les deux, Conor et John, qui disent, donc après ce truc-là, on s'est dit, OK, il faut qu'on revienne aux bases, faut qu'on revienne comme avant, on se réentraîne ensemble, etc. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est après ça, et donc le fruit de ces retrouvailles qui ont fait le game plan qui était parfaitement adapté avec beaucoup plus de low kick, etc., et une meilleure gestion de l'énergie pour le deuxième combat. Donc effectivement, il y a aussi ce motif d'espoir qui est que on a ce fait historique qui est que après le premier combat contre Ned Diaz, et qu'ils se sont remis ensemble pour travailler, ça a fait quelque chose de magnifique. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on navigue un peu à l'aveugle, en fait, dans tout ça. Tout ce qu'on sait, c'est que les game plans n'étaient pas adaptés du tout pour Dustin et pour... Parce que c'est les game plans, mais c'est au-delà du... Pour Dustin, par exemple, parce que pour Khabib, on pourrait se dire, si jamais il avait réussi, effectivement, à stopper les takedowns ou à nullifier pendant encore plus longtemps comment dire, la progression de Khabib, s'il s'était relevé, s'il avait mis KO Khabib, on aurait été en mode, ah ouais, effectivement, c'était un coup de génie de travailler la défense de takedown et la nullification des avancées de la progression en JJB, parce que du coup, ça lui permet de se relever, de mettre le KO, c'était magnifiquement vu, etc. Mais à la limite... Parce qu'on rappelle, il a quand même réussi à neutraliser Khabib comme personne ne l'avait fait avant lui, au sol. Mais là où j'ai plus de mal, c'est avec Dustin, en fait. Parce que le fait qu'il soit autant avec l'emphase sur la boxe anglaise, autant avec du poids sur la jambe avant, et pendant littéralement tout le combat sans en changer, et qu'il ait donc visiblement qu'il ait eu cette approche-là pendant tout le camp d'entraînement, parce qu'il est arrivé comme ça, il a passé la totalité du combat comme ça, là, pour moi, c'est là où c'est alarmant, en fait. Parce que ça veut donc dire que même en amont, à aucun moment il s'était dit Dustin Poirier met des low kicks, parce qu'il les mettait déjà. Hein.
Oui, non,
Il est
complètement.
complet, il est capable de. Et donc c'est là où je me dis merde, parce que c'est pas seulement qu'ils ont un mauvais game plan ou un truc qui n'est pas adapté, c'est que c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas vu proprement Dustin tel qu'il était, tu vois.
Sauf
Donc
que
on navigue vraiment à l'aveugle, quoi.
les fameuses 23 frappes significatives à la tête, où je pense qu'il s'est juste dit, je vais garder cette approche box, quand ça va toucher. Dustin Poirier va tomber. Et tu vois, et par rapport au combat
Ouais.
contre Ned Diaz, et c'est pour ça moi aussi que Conor, je pense que ça va pas suffire. Tu vois, le deuxième combat contre Ned Diaz, sur le papier, en tout cas à mon sens, Conor McGregor fait tout. Tout ce qui est parfait pour battre Ned Diaz. C'est juste qu'en face, c'est Ned Diaz et c'est en welterweight.
Ouais.
C'est juste qu'en face, c'est Ned Diaz et c'est en welterweight, mon cher Rust. Et donc finalement, il n'a pas réussi à le finir. Mais qu'est-ce que tu veux dire à un mec qui met trois knockdowns sur un round et demi? Il fait tout parfaitement. C'est
C'est
juste
sûr.
qu'il tombe sur un mec qui est infinissable, tout simplement. Et là, en fait, où moi aussi je le vois perdre contre Dustin Poirier, c'est que je pense qu'on va être un peu dans le même cas où il aura beau tout faire de la bonne manière. Ce round et demi va créer des dommages, mais pas suffisamment, à mon sens, pour mettre KO Dustin. Et
Ouais.
ensuite, ce sera beaucoup trop compliqué pour lui. Et vous le savez, Dustin Poirier, dès qu'il a l'opportunité, je vous invite à revoir le combat contre Eddie Alvarez. Dès qu'il sent que vous êtes un petit peu touché, il va pour vous finir, et il va pour vous finir intelligemment, et c'est mort pour vous. C'est pour ça que je pense que ça va être très compliqué pour Conor. Mais nos motifs d'espoir, donc, mon cher Rust, bien évidemment, il y a ces fameux déplacements qui sont possibles pour Conor McGregor,
Qu'on n'a pas
l'utiliser,
vu depuis tellement
qu'on n'a pas vu
longtemps,
depuis longtemps,
c'est
mais
ça qui fait flipper.
qui fait flipper, mais sinon, quelque chose de plus simple. Et Rust passe son temps, ses journées, ses minutes à louer
Ma
les
vie.
kicks, à sa vie entière, à louer le travail en kick de Conor McGregor, qui lui permet de cadrer ses adversaires, de les faire piocher comme rarement au niveau du corps. Et ça, c'est peut-être quelque chose, j'ai envie de dire, de plus simple à mettre en place pour Conor McGregor chez les lightweight, parce que en plus, il a beaucoup plus de puissance dans ses kicks.
Ben carrément, honnêtement, on le pense, il faut aussi donner à rendre à Dan ce qui appartient à Dan. Il a fait une superbe preview en breakdown Dan Hardy où il dit la même chose en substance. Donc c'est que, en fait, comme on sait et tout le monde sait que le style de Conor McGregor fait que de toute façon il va forcément se crever beaucoup plus vite qu'un gars comme Dustin, c'est juste ils sont construits de manière différente et leur style fait que. Mais effectivement, c'est pas une fatalité pour Connor, c'est-à-dire qu'il a des moyens de contrecarrer ça. Et un des moyens, c'est effectivement de littéralement, mais littéralement taper dans le cardio de l'adversaire, mais avec des kicks, en fait. Donc, c'est-à-dire tout un travail, ce qu'il a fait, et on le répète encore une fois, et ça marchait contre Khabib, il en avait placé quelques-uns qui étaient des bons, un mélange de, oui, c'est des front kicks, grosso modo, front kicks type, au ventre, et qui fait que ben, ça te creuse beaucoup plus vite la jauge, comment dire, et c'est ce qui avait marché parfaitement contre Chad Mendes, et qui avait fait que au bout de deux rounds, il était complètement cramé. C'est que c'est un travail de, comment dire, de harcèlement constant que tu mets en place. Et il sait le faire parfaitement, Connor, de varier les types aux jambes, les types au corps, tout ça avec des kicks circulaires pour effectivement cadrer. Il le fait tellement bien qu'on se demande vraiment, chaque combat qui arrive, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'ils ne les utilisent pas plus souvent? Et tu vois, on parlait du combat contre Cowboy Cerrone. Enfin, contre Cowboy Cerrone, le début de la fin, ça vient d'un high kick, tu vois. Un high kick qui est mis un high kick pour cadrer, sauf que c'est un Conor welterweight. Et donc, quand c'est en featherweight contre Dennis Siver, bon, bah, ça cadre. Quand c'est en welterweight avec Conor en mode gros daron irlandais, ben, ça calme. Donc, il sait le faire. Il sait tellement bien le faire que ça devient frustrant de ne plus le voir le faire. Mais effectivement, si c'est comme ça qu'il décide de revenir, je continue comme toi de mettre Dustin gagnant, mais au moins ça rendra le truc beaucoup plus intéressant et compétitif, je pense.
C'est exactement ça. En fait, tu vois, moi je me dis, il y a certains combats où les mecs peuvent les perdre. Tu vois, que ce soit par exemple Israel Adesanya contre Yan Blachowicz, ou finalement tu regardes le combat que fait Israel Adesanya, il n'a pas grand chose à se reprocher. C'est juste qu'il tombe sur quelqu'un qui est beaucoup plus. À part peut-être, tu vois, de dire, bah, ok, Adesanya, tu aurais peut-être pu arriver en mode vrai light heavyweight. Mais sinon, sur l'approche qu'a eu Israel Adesanya, c'est compliqué de faire mieux. Il a perdu contre quelqu'un qui clairement lui a apporté une réponse à ce que lui apportait directement. Ou par exemple Max Holloway contre Alexander Volkanovski numéro 2, où clairement là on a deux mecs qui sont au top de leur forme. Il y en a certains qui disent que Max a gagné, d'autres que Volkanovski a gagné, mais sur ce que Max Holloway a fait quand il fait les ajustements, peut-être qu'il perd, mais qu'est-ce que Max Holloway peut faire de plus? C'est très très compliqué. Donc tu vois, au moins tu vois qu'il y a un combat comme ça où à la fin on va se dire, bon bah ok, que Conor perde ou gagne, ben, il a fait des ajustements et là, ben, il a montré que mine de rien, il avait sa place. Et c'est pour ça que, et moi, le seul truc que je trouve dommage, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est obligé d'avoir le deuxième combat pour avoir ça.
Mais c'est ça, c'est on aimerait tellement. Parce que du coup, en fait, ce que ça veut dire, c'était grosso modo, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que ben, il n'a pas fait les choses de manière optimale sur le deuxième et que donc il est, entre guillemets, obligé d'avoir à chaque fois un combat avant de réussir à s'ajuster. Et entre guillemets, c'est ce qui fait que du coup, ben, il n'est pas au niveau où il est tombé de son piédestal duquel il était quand il a combattu José Aldo et Eddie Alvarez. C'est parce que ça fait partie de la panoplie d'un combattant d'aussi haut niveau, en fait. Donc, s'il ne le fait pas, ben, c'est que Dustin et son camp d'entraînement sont meilleurs à ça, et ça fait partie du game. Donc, c'est même pas une excuse qu'ils peuvent utiliser ou quoi que ce soit, ça fait partie du taf, et ils ne le font pas. Mais, ouais, bah, à voir, quoi. Maintenant, il nous reste plus qu'à voir ce qu'il apporte. Et...
En tout cas, déjà, et voilà. Déjà, on a le retour de The Old, de l'ancien Connor niveau trash talking, parce que entre messages... Bah bon, après, Dustin...
Non, c'est au moins ça.
On en avait parlé, très compliqué, bien évidemment, d'être bon en trash talk quand tu t'es fait mettre, je cite, en mode avion lors du dernier combat. Mais au moins, entre le message sur Twitter, qui est le message vocal mis sur Twitter, et la demande de DM postée sur Twitter, où là, franchement, c'est vraiment borderline, la femme de Dustin Poirier, quand même mère, de, je crois, de la fille de Dustin Poirier, parce que oui, il a qu'un seul enfant. Enfin, c'est quand même... Bon, là, on a franchi une étape, on va dire, et je pense que ça va être beaucoup moins cordial que lors de la revanche.
Après, en vrai, j'ai repensé à ce truc-là, et je me suis dit, je sais pas si ça vaut le coup, en gros, d'en faire tout un point, parce que, un, je me dis... C'est pas possible. Forcément qu'ils en ont. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'ils ont trois coups d'avance, Bobby Fischer, et qu'ils ont une réponse qui arrive le camp de Dustin Poirier, parce que je peux pas croire que la femme de Dustin Poirier fasse un move aussi entre guillemets naïf, tu vois.
Tout dépend du DM et de quand il a été posté, parce que récemment, tu vois, Jake Paul avait fait ça avec le, c'est, je crois, le cousin de Tyson Fury, Tommy Fury, qui voulait un combat contre Jake Paul, et en fait en 2017, l'actuelle copine de Tommy Fury avait envoyé un message à Jake Paul en mode hey, ça te dirait de faire la fête machin, j'arrive aux États-Unis bientôt.
Et il avait gardé le screen.
Et il avait, ben non, c'est qu'en fait, tu vois, une fois que t'as fait, quand tu fais une demande de message sur Instagram ou quand t'envoies un message, ouais, bah, il reste là en fait. Et donc voilà.
Putain,
donc
si,
par exemple, il y a quelqu'un qui m'envoie un message sur Instagram, qu'on voit un message à la sueur, le message reste. Enfin, tu sais, dans la, c'est comme un mail, tu vois.
Ouais.
Si tu... Donc en gros, le gars, il a juste ouvert ce mail là.
Ouais. Bon ben, on va voir comment ça tourne effectivement. Mais ouais, en fait, c'est au moins ça. C'est-à-dire que là, ce qui est bien, c'est que du point de vue du divertissement, au moins, vous pouvez être sûr que là, les 4 jours qui arrivent, je pense que ça va être le feu. Enfin, je sais, on fait confiance à Conor pour arriver avec de nouveaux angles. On ne sait pas comment, mais il va réussir à nous faire, comment dire, nous hyper au moins pour regarder le combat autant qu'on ne l'était pour le deuxième. Donc, je ne sais pas si ça veut dire quoi que ce soit en termes de compétences, de est-ce qu'on aura un Conor à l'ancienne ou pas, mais en tout cas, du coup, ce sera marrant.
En tout cas, à voir. Voilà, on a fait le tour, en tout cas, sur The Old Conor. Il y a des motifs d'espoir, rassurez-vous. Maintenant, la question, si Conor McGregor est intelligent, s'il a fait les ajustements comme tout le monde s'attend à ce qu'il fasse les ajustements, est-ce que ça va suffire pour s'imposer contre Dustin Poirier? Bien, si vous voulez participer à notre concours de pronostics, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Ce sera sur l'onglet, donc vous cliquez sur Discord. Il y a un onglet prévu à cet effet. C'est gratuit, ça se passe sur Google Form. Ensuite, vous pouvez gagner des tenues Venom. Bien, en parlant de Venom, d'ailleurs, big shout-out à Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Là aussi, ça se passe dans la description. Big shout-out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 45% sur tout my protein avec le code la sueur, mon cher Rust. À très très vite, mon nouvelles aventures. Oui, parce qu'on revient très, très, très vite.
I'm fucking coming for you! Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.